France Politique. Thomas Legrand.
Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidence de la République pour le Front de Gauche, est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon.
Bonsoir.
Nous allons bien sûr évoquer le plan de rigueur d'austérité le plus dur depuis 1945, dixit François Fillon. Nous allons évoquer aussi le G20, la crise, la dette, la Grèce, la candidature d'un concurrent direct, Jean-Pierre Chevènement, et bien d'autres sujets. Nous sommes en direct sur France Inter, France Culture et Le Move, et vous pouvez aussi nous suivre avec l'image sur le site politique.radiofrance.fr et sur le site franceinfo.fr. À mes côtés pour vous interroger, Marie-Ève Malouine de France Info, Hubert Huertas de France Culture, Benoît Bouscarel du Move, et Noé Da Silva nous rejoindra pour la séquence Vue d'ici de France Bleu 107.1 en fin d'émission.
Et Thomas Legrand de France Inter.
Voilà, ça c'est la belle voix de Marie-Ève Malouine que vous avez reconnue et qui nous met le contexte un petit peu de cette émission.
Et oui, il ne suffit pas de dire du mal du président Sarkozy pour se faire élire, dites-vous. Pourtant, à ce compte-là, vous devriez être dans le peloton de tête, mais ce n'est pas le cas. Les premières enquêtes après le succès des primaires socialistes traduisent plutôt une tendance au vote utile. Comment pouvez-vous inverser cette tendance, expliquer que votre radicalité est un plus pour une gauche qui veut exercer le pouvoir ou pas? Comment trouver votre place en fait avec un ancien collègue du gouvernement Jospin, Jean-Pierre Chevènement, qui décide de vous concurrencer? Vous allez nous expliquer tout cela, Jean-Luc Mélenchon.
Et on commence, Monsieur Mélenchon, par une question de Hubert Huertas, évidemment, sur l'austérité et le plan présenté demain par François Fillon.
Oui, François Fillon va donc annoncer demain le plan de rigueur le plus rigoureux depuis la dernière guerre mondiale. Ce sont ses mots. Il parle de mesures courageuses. Alors, est-ce que vous lui concédez au moins ce caractère courageux à 6 mois des élections?
Non, je ne vois pas où est le courage à martyriser son pays et à accepter les dictats de la finance internationale.
Mais il prend un rebrousse-poil des électeurs, là, peut-être. C'est là que serait le courage.
Ah non, je ne crois pas, parce que ça s'apparente plutôt au bourrage de crâne. On fait croire, par des effets de dramatisation successifs, que le pays est pris à la gorge, qu'on ne peut faire autrement. Et là, on évoque 1945, mais enfin, les mots ont un sens, non? Par qui avons-nous été envahis? Par qui avons-nous été trahis? Qui a fait des dévastations? Enfin, c'est pas sérieux. Le pays est plus riche qu'il l'a jamais été de toute son histoire. L'appareil productif n'a jamais été à un aussi haut niveau de performance qu'il l'est aujourd'hui. La population active n'a jamais été aussi éduquée et qualifiée qu'elle l'est à présent. Et c'est dans ce contexte qu'on vient nous parler de la situation d'un pays détruit et saccagé. Enfin, c'est pas sérieux.
Il y a une crise, malgré tout. Vous la concédez, vous la reconnaissez. Et elle est profonde.
Dites, je serais un drôle d'homme si je vous disais qu'il n'y a pas de crise.
Non, mais
hein, quand même,
là, vous venez de nous brosser le portrait d'un pays qui va bien.
Mais je dresse le portrait d'un pays qui peut aller très bien, mais qui ne va pas bien. Donc la question à se poser, c'est pourquoi? Enfin, il est assez extraordinaire, je ne dis pas à cet instant, mais d'une manière générale, qu'on m'interpelle sur le réalisme de ce que je dis, alors que ce qui est mis en œuvre depuis tantôt 15 ans, pratiquement, ne marche visiblement pas. Il serait donc temps de se demander si on ne peut pas faire autrement, vous ne croyez pas? Non, c'est l'inverse. On pense qu'il faut persister et aller plus loin dans une voie qui n'a produit que des dégâts.
Vous parlez de dramatisation. L'enjeu pour vous, l'enjeu là en ce moment, c'est le triple A, c'est de conserver le
Alors,
triple
voilà,
A.
Déjà, on s'est inventé un gendarme, les agences de notation, et tout le monde est à plat ventre devant. L'Europe, au niveau européen, le Parlement européen, la Commission ont étendu les pouvoirs des agences de notation. Plus personne ne s'interroge sur comment elles fonctionnent. On ne voit qu'un résultat. Compte tenu des pouvoirs considérables qu'on leur a donnés, elles ont, eux, droit de vie et de mort sur les économies nationales parce qu'elles peuvent provoquer des renchérissements extraordinaires des taux.
Ce gendarme existe. Quand il siffle, ce gendarme, il y a des
mais
effets
non, mais
concrets.
Le gendarme, dans un pays démocratique, le gendarme, c'est une autorité qui est instituée, qui est sous le contrôle de la politique. Le gendarme siffle quand vous n'appliquez pas la loi qui est décidée par le peuple. Cela,
là, le problème, c'est que s'il siffle, les taux d'intérêt vont augmenter.
Voilà. C'est ça. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une tyrannie. C'est un abus de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir, c'est un abus de pouvoir. Et contre cela, les dirigeants actuels ne font rien. Pourquoi? Parce que leur obsession est que soit garantie la rente. Voilà. Nous sommes une grande économie vouée aux rentiers. Et dans les différents pays d'Europe, pour garantir la rente, on installe une politique d'austérité, écoutez-moi bien, qui va nécessairement mal tourner. Ça n'est pas peut-être, c'est une certitude.
Qu'est-ce que ça veut dire mal tourner?
Toutes les économies fait baisser l'activité
partout. Qu'est-ce que ça veut dire mal tourner?
Eh bien, on a des précédents dans l'histoire. Souvent, on évoque 1929, vous le savez bien, on prend l'exemple de cette période. Eh bien, nous allons au-devant d'événements aussi graves que ceux de cette période.
Voilà, c'est vous qui dramatisez. Tout à l'heure, vous reprochiez au gouvernement d'aller chercher 45, vous allez chercher 29.
Mais oui, bien sûr, parce que ce que je reproche au gouvernement, c'est pour faire passer des mesures qui n'ont pas de raison d'être, de dramatiser la situation. Ce que je suis en train de dire, c'est que la situation qu'ils vont, eux, créer sera dramatique. Est-ce qu'on se comprend ? Le drame, c'est eux qui le créent, par une politique d'austérité généralisée. Mais pays par pays, tout le monde est en train de contracter l'activité économique. Voilà. Nous avons donc deux thèses qui sont en présence.
La dette, ce n'est pas un fantasme quand même.
Pardon, une seconde, j'y viens. Mais je voudrais juste finir de développer cette idée. Deux thèses sont donc en présence. La première dit, partout, comprimons la dépense. Surtout, n'augmentons pas les impôts sur le capital, car le capital va s'enfuir. Et donc, nous avons partout des politiques d'austérité. Donc, partout, l'activité réduit. Quand l'activité réduit, les impôts rentrent moins, donc les déficits sont plus grands, donc la dette est plus grande, donc les emprunts sont plus importants à payer. Voici ce que je décris. A l'inverse, une autre politique consisterait à dire il faut relancer l'activité. Je ne parle pas là de croissance, le mot est trop généraliste. L'activité. Et si on relance l'activité, alors les pays respirent. En Europe, au lieu où nous nous trouvons, vous avez deux économies phares. L'économie allemande et l'économie française, qui sont les deux plus importantes du continent. L'économie allemande est celle d'un peuple beaucoup plus âgé que nous, avec des résultats sociaux infiniment inférieurs aux nôtres. Et de l'autre côté, vous avez la nation française, extrêmement dynamique, plus jeune, qui va bientôt être la première population du continent, qui a absolument besoin que l'activité se développe pour que sa jeunesse formée, qualifiée, trouve à organiser sa vie. Nous ne sommes pas dans la même situation que les Allemands. Et à mains égards, on est en train de nous imposer le même modèle. C'est une erreur totale, un contresens économique. Ce que fait le président Sarkozy, c'est un suivisme aveuglé derrière la politique des Allemands.
On peut prendre les propositions, on ne les connaît pas encore très bien, mais on a quelques pistes éventuelles du Premier ministre. Il y a par exemple l'augmentation de la TVA. Parce que le Premier ministre, lui, il dit qu'il faut réduire les déficits. Donc il propose d'augmenter la TVA, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien voilà, le genre d'aberration auquel conduit cette vision de la politique.
Mais vous n'étiez pas pour la baisse de la TVA, par exemple, sur la restauration
hein.
Non, parce qu'à cette époque, elle nous a coûté 3 milliards d'euros. Je pense qu'ils auraient été plus utilement appliqués ailleurs. Non, mais je ne suis pas d'accord pour prendre par petit bout le commentaire de la politique de la droite, parce que
C'est la logique qui hante.
Ce qui est important, c'est les visions qui se confrontent. Moi, j'assume le fait que le front de gauche porte une autre vision dans laquelle on augmente les salaires, on diminue le temps de travail, on permet aux gens de partir plus tôt à la retraite, on réactive les services publics et de cette manière, on donne de la respiration à l'économie. Voilà, ça c'est une formule, la nôtre.
Mais on s'en
et puis il y a celle
plus.
Du gouvernement. Ils n'en finiront pas. Augmenter la TVA, mais enfin, qui paye la TVA aujourd'hui ? Qui le paye le plus durement ? Les gens du commun, les petits salaires, les petites payes. Savez-vous, souvenez-vous qu'un SMIC, ça n'est que 120 euros de plus que le seuil de pauvreté. Et qu'une masse de Français, 8 millions aujourd'hui, sont déjà des pauvres. Et c'est à cela qu'on va encore aller demander davantage. Enfin, c'est vraiment quelque chose de tragique, d'aveuglement social.
Cet argent pour rembourser la dette, vous le trouvez où, vous ? Puisque d'emblée, la TVA...
C'est la moins difficile qu'il y ait à faire.
Ah bon ?
Ah ben, très honnêtement. D'abord, il faut regarder ce que ça représente avant de faire peur à tout le monde. Vous savez que la dette totale de la France, c'est 1640 milliards d'euros. Nous produisons chaque année 1995 milliards d'euros. Si on rapportait la dette que chacun d'entre vous doit pour son appartement, sa voiture ou au revenu d'une année, ma foi, vous n'avez même pas la triple A, vous avez la moins triple 100. Hein. Bon, on le fait pour la France. Que faut-il faire pour le comprendre ce que nous devons réellement ? Il faut rapporter cette dette à la période globale de la durée de la dette. La durée moyenne d'un type de dette en France est 7 ans 31 jours, ce qui signifie que nous devons... Ces 1840 milliards doivent être rapportés aux 14 000 milliards que nous produirons en 7 ans et 31 jours, c'est-à-dire 12%. Vous me parlez du service de la dette chaque année, 50 milliards. Ça représente 2,5% de la richesse produite dans
le pays. Vous voyez que vous prouvez qu'il n'y a pas de crise.
Je prouve qu'il y a une manière de régler la crise. Et cette manière, c'est de rallumer les feux de l'activité.
Mais ce n'est pas une crise de la dette pour vous. Ce n'est pas une crise de la dette.
Non, l'économie capitaliste est malade. De la dette et du crédit. Parce qu'il ne peut plus vivre qu'à crédit, le capitalisme, en anticipant des productions qui n'ont pas lieu. Je ne veux pas entrer trop dans la technique, mais les gens entendraient avec stupeur, ou apprendront avec stupeur, que 90% des échanges financiers du monde ne correspondent à aucune transaction matérielle réelle. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui tourne sur lui-même. Donc moi, je suis un partisan de la définanciarisation, c'est la thèse du Front de Gauche, définanciarisation de l'économie. Sa relocalisation, la planification écologique pour faire bifurquer l'ensemble du modèle productif, les machines, les modèles de relations sociales, les modèles d'échange des produits. C'est une autre vision.
Est-ce que dans cette logique, il y a, par exemple, la taxation des transferts financiers ?
Eh bien, ça va de soi, écoutez.
Est-ce que vous pensez qu'on a fait un petit pas dans cette direction, au moins dans les discours au G20 ?
Ah, dans les discours, ils sont très forts, mais là, vous avez quatre
G20. Ah, mais il y a quelques années, ils étaient contre.
Déjà en 2009, ils disaient que c'était intéressant, qu'il fallait étudier. La fois d'après, ils disaient que c'était à étudier, donc c'était intéressant, et ainsi de suite. Ce sont des phrases. La principale conclusion du G20 est qu'on a confié aux voyous la police, puisque nous avons dans le fonds de stabilité qui est créé, vous savez, cet organisme qui est destiné à surveiller les banques dont les résultats ont un impact mondial. On a mis à la tête de cet organisme un personnage qui était auparavant le représentant de Goldman Sachs en Russie au moment où la Russie s'est effondrée. Et on a mis comme adjoint le président de la banque suisse, qui, comme vous le savez, figurera peut-être dans la liste des paradis fiscaux, la Suisse, pas lui, qui lui-même était un agent dans des premiers fonds de hedge fund du monde, des fonds de spéculation, dont le président de ce fonds de spéculation avait dit « Ah, l'effondrement potentiel de la zone euro présente d'importantes potentialités de profit. Voilà à qui on a confié la stabilité financière du monde ». Honnêtement, j'estime qu'on devrait entendre maintenant des réactions indignées de voir un tel personnel mis en place. Quand vous mettez, pour terminer le tableau, M. Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne, qui lui-même était le représentant de Goldman Sachs en Europe et qui aidait la Grèce à mentir sur ses résultats, vous avez là un trio de voyous qui vont amener l'économie du monde, qui sont les mieux placés pour savoir comment la désorganiser.
Si on peut revenir juste sur l'aspect politique, on est à 6 mois de la présidentielle. Comment vous expliquez qu'un gouvernement en place et qui, a priori, veut gagner l'élection, se lance comme ça dans un débat sur le thème « ça va être très difficile, on n'a jamais vu ça depuis l'après-guerre ». Quel est l'intérêt électoral ?
Mais chacun remplit son rôle. Moi, je suis le front de gauche, je représente le peuple, les ouvriers, les salariés, les gens qui vivent de leur travail, eux représentent la finance.
Ils peuvent gagner les élections comme ça, vous dites, dans ce cas-là.
Mais vous savez, il faut que le peuple vote pour eux, mais ça ne suffira pas, les financiers.
Ça, c'est clair. Vous dites que vous représentez le peuple, voilà. Dans les sondages en tout cas, et dans les dernières élections, il y a quand même plus de peuples qui votent pour d'autres partis, notamment l'UMP que pour vous.
Eh bien, vous avez tout compris, ça s'appelle la démocratie, il faut convaincre. Donc mon rôle est de convaincre.
Donc vous voulez représenter le peuple, vous ne le représentez pas encore quand même.
Je le représente au moins comme député, vous voudrez bien en convenir. Bon, donc, mais venons à des choses plus simples que de se jeter des sondages à la figure. Mais pourquoi pas, moi je n'ai pas de honte à faire un travail rude et dur. Comme ceux qui m'écoutent, il a fallu toujours qu'il y ait des débuts. Dans l'entreprise, le syndicaliste qui le premier commence à revendiquer, dans la vie, celui qui crée une association, c'est toujours difficile. Pour moi, c'est infiniment plus facile puisque je suis épaulé par une longue histoire qui me porte. Ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, chacun d'entre nous porte les intérêts, essaye de porter les intérêts dans le cadre d'une bataille pour l'intérêt général d'une catégorie sociale. Permettez-moi de vous dire que le très grand nombre... ses intérêts quand même plus proches de l'intérêt général que le tout petit nombre de ceux qui participent à la fête du Fouquet's et le reste. Je ne sais pas si cette digression aura beaucoup éclairé nos auditeurs, mais je tenais à la faire. Oui, nous sommes dans une société de classe. Et il y a des dominants qui dominent, dont le problème est qu'ils sont peu nombreux et qu'ils doivent passer leur temps à convaincre les dominés d'accepter leur domination. Donc pour ça, il faut leur faire peur. Voilà ce qu'ils font.
Hubert Huertas, France Culture.
La peur est notre ennemi, monsieur Thomas. C'est ça le fond de l'affaire.
Donc c'est... Pour reprendre la question de Marie-Ève, qui était pour quelle raison le gouvernement dramatise cette situation, pour quelle raison de séduction, puisqu'on est dans le moment où il faut séduire les électeurs, on veut les séduire en leur faisant peur.
Mais écoutez, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de commenter les techniques de communication de la droite. C'est vous les analystes, les commentateurs. Moi, je suis un acteur. Donc je sais que ce gouvernement-là pratique depuis qu'il est au pouvoir une politique qui est vouée à la finance, aux grands revenus qui ont été cajolés, bichonnés, encouragés tout au long du mandat de M. Sarkozy. Et il continue. Comme ils ne peuvent pas séduire parce que ce qu'ils ont à proposer n'est pas séduisant. C'est la politique qui est appliquée depuis des années. Mais ils essayent d'impressionner, de faire peur, de prendre les gens à la gorge. C'est un procédé qui est aussi vieux que la domination.
Benoît Bouscarel.
Jean-Luc Mélenchon, vous dites donc que la dette française n'est pas alarmante. Est-ce que la dette grecque, est-ce que la dette italienne, est-ce que ces dettes-là vous font peur?
Mais il faut prendre cette affaire par le bon bout. C'est-à-dire, comment pourrait-on régler le problème? C'est ça la vraie discussion. Sinon, les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire en soi? Tout à l'heure, je vous ai évoqué le service de la dette française. Si vous dites 50 milliards, évidemment, ça fait peur à tout le monde. Et moi aussi, je me dis, ça fait quand même beaucoup d'argent donné aux banques.
Les taux augmentent encore.
Mais j'ai rapporté aux revenus du pays, j'ai dit, à ce que produit le pays, c'est 2,5. Maintenant, vous me parlez de la dette grecque. Alors, sur la dette grecque, on a fait toutes sortes de choses, de démonstrations dont certaines étaient inacceptables, injurieuses pour le peuple grec. On a dit que c'était des feignants, que les fonctionnaires ne fichaient rien, que la preuve, à 4 heures de l'après-midi, ils allaient faire le taxi. On l'a entendu 10 fois. Et moi, combien de fois ai-je dit aux gens, allez faire le taxi à 4 heures de l'après-midi sous le cagna à Athènes, et on va voir ce que vous avez vous-même dans le ventre.
On a dit surtout qu'il y avait des problèmes fiscaux aussi. Dans
oui, le... et que les Grecs étaient des tricheurs.
Les professions libérales grecques ne payent pas d'impôts.
Voilà, vous le savez bien, monsieur Thomas Legrand, parce que vous... Mais comment vous le savez? Vous le savez parce que la propagande le dit. Mais si c'était vrai, si c'était ce que vous dites, et peut-être que c'est vrai, alors la réaction normale aurait été de dire « Mais où est passé tout cet argent? Allons le chercher là où il a été caché. Où est-il cet argent? Où est-il? Il est en Suisse, il est dans les paradis fiscaux. Que fait-on contre les paradis fiscaux, s'il vous plaît? Rien. Absolument rien. Des déclarations du G20 à intervalles réguliers qui disent que c'est pas bien. Et je vous rappelle que la dernière fois, nous avons atteint des sommets dans le ridicule, car le G20 avait établi une liste de gens qui, paraît-il, ne coopéraient pas assez bien sur le plan de la transparence fiscale, et que moins de 48 heures plus tard, il n'y avait plus personne sur la liste parce que, paraît-il, tout était réglé. On voit depuis que ce n'est pas vrai.
Donc le G20 n'a servi à rien.
Pardon ?
Le G20 n'a servi
absolument
à rien.
Sinon à dépenser beaucoup d'argent et à donner l'impression
sur les transactions financières, donc crédit du tout à Sarkozy et Obama.
Non, ce qu'ils ont fait, n'a servi absolument à rien. La crise continue et elle va dérouler ses anneaux. Mais vous m'avez posé une question précise. Est-ce que la dette grecque ou la grecque italienne est un problème? Oui, si on doit le régler dans le cadre actuel, c'est-à-dire si les États sont obligés d'aller demander aux banques de leur prêter de l'argent au taux que vous connaissez de plus en plus élevé. Oui, alors c'est un problème immense. Mais si on applique la solution que le Front de Gauche d'abord a été le seul à défendre, puis que progressivement un nombre croissant de gens défend, puisqu'il paraît que même M. Bayrou est sur cette position, qui est de dire que la Banque Centrale Européenne devrait prêter directement aux États-nations, la spéculation aurait été immédiatement stoppée pour une somme peu importante, car le total de la dette grecque au moment où elle est arrivée sur la scène représentait à peine 1% de la richesse totale d'une année de l'Union européenne.
Aujourd'hui, ce n'est pas donc les mêmes chiffres. Hein. Et puis en Italie, ce n'est pas non plus les mêmes chiffres.
Et vous voyez comme ça va. Hein. Et puis je vais vous annoncer quelque chose. Ça va être de plus en plus grave. L'Italie va s'enfoncer pour la raison que les taux d'intérêt vont montant, que les procédés qui ont été utilisés à son égard sont absolument inacceptables entre nations qui se respectent et qui sont des nations qui ont des rapports fraternels.
C'est-à-dire la mettre sous tutelle, pousser son Premier ministre à démissionner.
C'est une honte de faire des convocations. Mais mesdames, messieurs qui m'écoutez, pour l'instant, quand vous pensez aux Grecs ou aux Italiens, peut-être que vous avez au fond de vous quelques-uns des clichés qui vous font penser que ce sont des gens qui ont l'habitude plus de s'amuser que de travailler. C'est absolument faux. C'est en Grèce qu'on travaille le plus longtemps. C'est en Italie que l'on travaille le plus longtemps, en tout cas plus longtemps qu'en Allemagne. Donc les gens ne cessent de bosser. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que dorénavant, on les convoque et qu'on les mette sous tutelle. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire ? Nous nous comportons comme si nous avions occupé ces pays. Et quelle tête ferez-vous le jour où ça arrivera sur la France? Vous accepterez qu'on nous convoque? Vous accepterez qu'on vous mette des amendes parce que vous n'avez pas respecté les sacro-saintes règles de l'Union européenne, de la concurrence libre et non faussée? Procéder de cette manière-là, c'est pousser les peuples à s'affronter. C'est une erreur immense.
Est-ce qu'il faut Europe-là
quand même est condamnée à mort.
Pour revenir au G20, on a vu une interview croisée avec Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Barack Obama, que la gauche avait encensé au moment de son élection, puis là maintenant, il encensait Nicolas Sarkozy, le président américain. Vous avez été surpris?
Moi, je ne suis pas surpris. Je sais ce qu'il faut penser des États-Unis d'Amérique et de leur président, quel qu'il soit. Je n'ai pas fait partie de ceux qui disaient à son sujet autre chose que c'était une grande chose, que le peuple américain ait élu un noir à sa tête. C'était quelque chose de frappant, d'important, qui montrait une vitalité du peuple américain, une disponibilité. Mais pour le reste, le président des États-Unis fait la politique qui correspond aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique ont aujourd'hui l'intérêt à ce que l'Europe soit subalterne par rapport à eux. Et ils font ce qu'il faut pour cela. J'ajoute qu'il y a dans la vie politique française un sujet qui gagnerait à être débattu, dont je ne comprends pas qu'il ne vienne jamais sur la table. C'est le projet de grand marché transatlantique, pour lequel il y a déjà eu plusieurs votes en Europe favorables, qui vise en 2015 à abolir toutes les frontières juridiques, financières, fiscales entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. En quelque sorte, la présence de M. Obama au sommet européen, qui est un scandale absolu, la présence du secrétaire d'État chargé du Trésor au G20. Oui, mais il est venu à la réunion des Européens.
Mais c'est parti de
la page. Non. Il était au G20. Il est venu à la réunion des Européens où il a été invité. Son secrétaire d'État au Trésor a participé à la réunion des ministres des Finances cet été aussi. Donc maintenant, les États-Unis d'Amérique viennent et s'installent à la table de l'Union Européenne.
Et la Chine, Jean-Luc Mélenchon, la Chine.
Pardon ?
Et la Chine ?
Ah ben venons-y, alors posez-moi une question.
Sauver l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous réjouit ?
D'abord, j'éclate de rire, mais après, je ne le montre pas parce que ce sont des questions.
Pas
sérieuses.
Sur ma question, hein.
Ah ben
sur
oui,
le
non,
fond
sur
du problème.
Question. Votre question, elle est extraordinairement pertinente parce qu'elle va me permettre de me moquer de beaucoup de gens qui m'ont brocardé auparavant. Oui, parce que moi, j'avais dit la chose suivante. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse la Chine en tête à tête avec les États-Unis d'Amérique régler le sort du monde. Donc, je suis pour qu'on ait, nous, les Européens, et nous, les Français singulièrement, un dialogue direct avec les Chinois et une coopération renforcée, où on explique comment on s'y prend, quelles marchandises sont les bienvenues, lesquelles ne le sont pas. Bref, la coopération, pas la concurrence libre et non faussée. La coopération, c'est donc une négociation. Aussitôt, j'ai été traité, suspecté de tendresse excessive pour le Parti communiste chinois, et que sais-je encore. Comme si j'allais, sur cette affaire, renoncer à un combat pour la liberté constant depuis que je suis un adulte conscient.
Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous Nicolas Sarkozy.
Et les voilà tous courir à Pékin, lécher les pieds des Chinois, vendre qui des ports, l'autre des trains, le troisième. Ils sont prêts à tout vendre, tout donner pour avoir l'argent des Chinois. C'est une erreur monstrueuse. Et c'est une inégalité inacceptable. Pourquoi ? Le revenu par tête des Chinois place la Chine à la 70e position du monde. Le revenu par tête des Grecs les place à la 30e. Donc, on va demander aux 70e de venir au secours du 30e.
Ils sont un peu plus nombreux. Les Chinois sont un peu plus nombreux. Et donc, la masse monétaire chinoise est un peu plus impressionnante.
Parfaitement juste, monsieur Thomas Legrand. Par conséquent, l'argent que les Chinois ont, il ferait bien de le donner aux Chinois eux-mêmes. Voilà. Et moi, si j'étais le président de la République chinoise, je donnerais d'abord l'argent des Chinois aux Chinois.
Il y a dans les termes du G20... la demande que la Chine relance un petit peu l'activité en Chine.
Ce que je vous propose, monsieur Thomas Legrand, que nous fassions en Chine quelques-uns. Non, que nous fassions en France quelques-unes des décisions prises par le 6e plan chinois, puisque vous me dites qu'on leur demande d'accélérer. Le 6e plan chinois prévoit et réalise une augmentation des salaires de 15% chaque année. Eh bien, allez. Prenons cet exemple-là, nous allons faire comme les Chinois, les salaires
1700
en France vont être augmentés de 15%.
On va passer à un autre thème. Jean-Pierre Chevènement se présente, il a annoncé ça ce matin, il se présente à l'élection présidentielle. Je crois qu'il a 72 ans, il est à peu près sur beaucoup de points, sur vos thèmes.
Sur beaucoup, et ce qu'il dit est intéressant, toujours.
Sur la question économique, comment vous prenez cette candidature, comme une concurrence ?
Non, d'abord, je pense plutôt les choses en termes de dynamique des idées. Vous savez, quand Montebourg a fait sa campagne dans le PS, on m'a dit « c'est un concurrent pour vous ». Bon,
la fin a montré... Parce que vous saviez qu'il allait être éliminé, donc voilà.
Eh bien, écoutez, la fin a montré que ça a été plutôt profitable, parce qu'il a agité des idées qui étaient tellement voisines des nôtres qu'elles étaient identiques, et donc ça a élargi l'espace de nos idées. De la même manière, j'estime que la contribution de Jean-Pierre Chevènement dans la campagne va élargir l'espace des idées.
Est-ce que ça ne va pas diviser en termes de nombre?
Attendez, d'abord, nous ne sommes pas identiques. Hein,
de même façon. Il y a quelques différences.
Il y en a quand même quelques-unes qui
sont l'écologie, le patriotisme.
Voilà. Non, sur le patriotisme, je suis patriote. Et je crois que d'une manière générale, au front de gauche, le patriotisme est une valeur dominante. On s'entend bien, patriote, ce n'est pas nationaliste. Hein. Le patriote, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Mais la nation a naturellement une réalité que personne ne pense éliminer. Mais sur sa vision sur l'écologie est extrêmement étroite. Je pense qu'il est d'une autre époque de la pensée de gauche. Il ne comprend rien à la planification écologique, il ne croit pas que l'unité de l'écosystème humain fait qu'il faut prendre des mesures maintenant. Il considère tout ça comme des choses exagérées, et même, dit-il des fois, obscurantistes. Non, ce qui est obscurantiste, c'est de ne pas comprendre le danger dans lequel le productivisme met l'espèce humaine. Bon, mais je mets ça de côté car je n'ai pas envie de me disputer avec lui. Au demeurant, je n'y ai pas intérêt, et je vais vous dire pourquoi. En 2006, c'est-à-dire il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 6 novembre, Jean-Pierre Chevènement annonçait sa candidature sur TF1. Et il en était résulté une très grande agitation. Après quoi, quelques mois étant passés, Jean-Pierre Chevènement a rallié Ségolène Royal dès le premier tour. Par conséquent, dans les deux cas, soit il est candidat et il maintient sa candidature, il va agiter des idées et il va, d'une certaine manière, apporter de l'eau à notre moulin. Et s'il se retire, eh bien je dirais aux gens, si vous avez aimé Chevènement, eh bien vous avez mieux avec le Front de gauche.
Sauf qu'il a donc, été très aimable avec François Hollande, oui. Donc... On verra. On va passer à un autre
que
sujet.
Plein de gens rallient François Hollande et dans l'ordre des choses. Il y a des circonscriptions, des ministères à partager. Nous ne sommes pas candidats.
Il est 18h35, une petite virgule, et l'on retrouve Benoît Bouscarel du Mouv'.
Radio France Politique. Thomas Legrand.
Benoît Bouscarel, il est jeune, il est du Mouv', il a donc des questions de jeunes pour vous.
Question pertinente. Jean-Luc Mélenchon,
on va voir. Ne vous vantez pas avant d'avoir commencé.
Le mouvement des indignés, vous l'avez dit vous-même. Le mouvement des indignés, donc, il semble beaucoup vous intéresser. On comprend pourquoi. Vous aimeriez trouver pour votre campagne une dynamique un peu comme celle de 2005 sur le référendum. Vous aimeriez fédérer, pourquoi pas, les radicalités. Mais ça paraît difficile. La rédaction du Mouv' est allée à la rencontre des indignés qui campent depuis vendredi, en ce moment, là, sous la Grande Arche. C'est le mouvement Occupant la Défense. Écoutez un des organisateurs de ce mouvement, Florence Maurice. Lui a demandé ce qu'il pense de votre action politique.
Il est là pour remettre des rustines sur le système, peut-être finalement comme beaucoup d'autres. Je le dis d'autant plus que je suis dans son parti et je pense que je ne vais pas voter pour lui parce qu'il est en train de s'éloigner totalement des gens. Et je pense que moi j'irai voter blanc parce que clairement il y a quelque chose qui ne va pas, entre un décalage entre une construction populaire et un soutien affecté. Le réel soutien, ce serait que... ce serait qu'ils arrêtent de faire campagne et qu'ils soient tous dans la rue avec nous.
En gros, certains indignés pensent que vous n'êtes finalement qu'un politique comme les autres.
Ils ont le droit de le penser parce que de bien des façons, c'est vrai. Je suis un homme politique, je crois aux élections, je vais proposer aux gens de prendre des bulletins de vote. Bon, mais je n'attache pas d'importance à la perfidie qu'on pourrait en déduire. Ce qui m'importe, c'est l'état d'esprit. Et c'est ça qui est important pour moi, le défi que ça me lance. Des millions de gens pensent que l'action politique institutionnelle n'a plus aucun sens.
Ça, c'est le vrai fond du problème. Est-ce que les politiques peuvent y faire quelque chose ?
Non, mais les politiques, écoutez, c'est comme les journalistes, les généralités ne veulent rien dire. Je suis un homme politique de gauche. Je ne suis pas les politiques représentants du syndicat des politiques.
Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose ?
Oui, le Front de gauche peut transformer radicalement la situation. Il me reste à en convaincre cet indigné dont vous parlez. Mais quoi qu'il pense de moi... Moi, je ne pense pas la même chose de lui. Je l'encourage à continuer. Si vous pouvez aller plus loin que ce que nous-mêmes nous essayons de faire, si vous pouvez changer plus profondément la société, si vous avez besoin d'aide, dites-nous comment, on vous aidera. C'est sans condition.
Mais souvent, ils ne veulent pas forcément plus de radicalité.
Pardon ?
Oui. Ils ne veulent pas forcément plus de radicalité, mais ils veulent plus de démocratie.
Voilà. Eh bien,
c'est ça.
Eh bien, c'est le point de départ. C'est le point de départ de la pensée du Front de gauche. Nous réclamons de la radicalité concrète. Imaginez-vous qu'il y a tout de même une différence entre, prenons un exemple au hasard, le président de la République qui leur propose une politique d'austérité et de ne toucher à rien de l'ordre établi, ou bien M. François Hollande qui propose de ne toucher à rien de l'ordre établi, et le programme du Front de gauche qui, par exemple, en matière de démocratie, propose de changer les institutions de fond en comble et de passer à une 6e République. Il me semble qu'il y a une nuance. Tout le monde peut comprendre qu'il y a une différence. C'est à moi de convaincre ces jeunes indignés que c'est de notre côté, et c'est avec nous qu'ils peuvent faire avancer leurs propres idées. Je ne dis pas les réaliser. Moi, mon rôle n'est pas de récupérer le mouvement des indignés. C'est de me faire récupérer par eux. C'est que le Front de gauche soit récupéré.
Ouais. On a l'impression, des fois, que vous aimeriez les récupérer.
Mais vous avez les impressions que vous voulez. Mais moi, j'ai la ligne que je veux. Et la ligne que nous avons au Front de gauche, ça n'est pas d'enfermer les mouvements sociaux, de leur donner un sens, de leur donner des ordres. Non, c'est de leur donner... un horizon et d'être nous-mêmes une contribution à leur action. Si nous, le Front de gauche, nous faisons un bon score, si nous, par exemple, arrivons au pouvoir en France, mais nous faisons craquer la chaîne de la servitude dans toute l'Europe, ça sera un appel d'air immense à l'action pour tous les indignés de toute l'Europe. Et si je suis le président de la République française, toute cette folie de politique d'austérité conjuguée, cette domination de la concurrence libre et non faussée, tout ça c'est terminé. La France parlera d'une autre voie. Alors c'est à eux d'estimer si ça vaut la peine ou pas. Mais s'il met un bulletin blanc, ce qui est son droit, il a le droit de le faire. Et je ne porte pas d'appréciation sur son geste. Je lui dis c'est une erreur. C'est un coup que tu pourrais donner que tu refuses de donner. Tu as le moyen d'exprimer quelque chose et tu viens et tu dis je n'ai rien à dire.
Bon, c'est déjà un camarade puisque vous le tutoyez.
Jean-Luc Mélenchon.
C'est l'habitude. Quand on se parle, en général, on se parle assez fraternellement à gauche et on se tutoie.
Vous n'avez pas encore donné votre point de vue sur un épisode qui a fait du bruit sur Internet et dans la presse cette semaine. Alors je vous en donne l'occasion. Au Parlement européen à Strasbourg, la semaine dernière, vous avez pris à partie deux journalistes des Inrecuptibles qui vous ont simplement vu discuter avec Brice Hortefeux dans les couloirs, dans la buvette, je crois, du Parlement européen.
C'est une question de jeunes, ça.
Ça vous a gêné?
Les Inrocs.
Ça
a intéressé les jeunes.
C'est
dans la rue, il y a plein de jeunes qui m'ont dit « Dites, il y avait un truc à la buvette. »
L'altercation a visiblement été violente. Quelle est votre vision des choses?
Oui,
vous y avez réagi assez vertement dans votre blog. C'est pour ça aussi qu'on vous pose la question.
Oui, bien sûr. Il faut bien réagir parce que c'est ça l'art de la traque et du harcèlement. C'est qu'on vous fait un effet en boucle. Et puis après, vous êtes mis à devoir vous expliquer. Là, j'ai des secondes précieuses. Je parle sur toutes les radios.
Non, mais on va faire vite. Vous inquiétez pas.
C'est pas un piège.
C'est important.
Là, vous les perdez.
Pour quelqu'un, on a envie de savoir si...
Vous serez puni par où vous avez péché. Donc voilà, vous me faites perdre du temps, je vous en fais perdre.
Comment vous
donc,
réagiriez si vous étiez cette histoire passionnante, Jean-Luc Mélenchon, avec, Angela Merkel, négociation? Vous lui sautez au cou ou vous arrivez à discuter? C'est important de savoir ça. C'est pas de la vie privée.
J'ai rencontré Angela Merkel.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Quelle est votre personnalité? On a l'impression que vous avez des explosions.
D'accord. Oui, mais non, ça, on a l'impression, mais ça, je vous donne acte de ce fait, que les choses sont construites pour que cette impression l'emporte. Par exemple, sur 3 jours de fête de l'humanité, j'ai eu droit à 2 secondes reprises en boucle. Sur 6 mois de campagne des élections européennes, 4 secondes avec un apprenti journaliste. Là, pareil. Donc, je suis dans une buvette. Vous voyez, alors là, on va raconter une histoire qui va passionner les Français.
Allez-y, racontez-la.
Non. Il ne fallait pas commencer. Donc, puisque vous commencez,
c'est vous qui perdez le temps.
Je suis donc dans une buvette et se trouve à côté de moi M. Hortefeux. Chacun d'entre vous, naturellement, ne parle à personne autour de lui. Je parle avec lui, je vois passer quelqu'un avec un appareil photo. Je lui dis non, on me l'a déjà fait. La dernière fois que j'étais à cette même foutue buvette, il y avait ce même Hortefeux au même endroit et j'ai lu dans un journal que je prenais mon petit déjeuner avec lui. Donc, c'est le gars avec l'appareil photo que j'engueule. Et après, je vois qu'il y a à côté une journaliste. Voilà. Et à partir de là commence ce drame mondial international.
C'est votre réaction.
Qui est importante dans cette histoire. Je suis indigné contre la traque qui est faite.
Monsieur Mélenchon, c'est une question sur laquelle vous expliquez. On va le faire rapidement. La journaliste en question des Inrocs, que je connais bien, je suis aussi aux Inrocs, a eu l'impression que vous lui fondiez dessus. Voilà, vous fondiez sur elle avec une certaine agressivité. Et quelquefois.
C'est totalement terrible.
Et quelquefois, il y a eu d'autres, il y a des députés socialistes qui étaient là et qui ont eu aussi cette impression. Quelquefois, on a un peu l'impression de ça.
Alors, avec qui elle était.
Alors, c'est peut-être. Oui, elle faisait un reportage sur eux.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que c'est un pas un trait de votre caractère hein.
Oh,
alors là, non, attendez. Je sais où vous voulez m'entraîner, j'irai
non,
pas.
Non, pas du tout. Vous êtes vous-même un rédacteur des Inrocs, vous me parlez d'un incident qui n'intéresse personne, et là je vois des gens qui se copinent entre eux.
Ce qui est intéressant,
c'est la personnalité. Ce qui intéresse, c'est qu'on vous voit tenir des propos extrêmement agressifs, notamment sur Brice Hortefeux, et après les gens sont surpris de voir qu'en fait, après avoir débattu entre eux, parfois très fortement, les hommes politiques se retrouvent autour d'un café.
Ce qui n'est pas négatif, pourquoi pas?
Pourquoi vous dites pas, je peux taper sur Hortefeux au micro, et puis quand je le vois.
C'est une attitude républicaine.
Prendre un café avec lui.
Mais c'est exactement, je vous remercie de me poser la
question. Et c'est le sens du papier qui était dans les angles là.
Parce que c'est ça, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous croisez des gens, nous ne sommes pas en guerre civile, on se salue. Oui. Ce que je pense de M. Hortefeux, tout le monde le sait, je l'ai écrit, et de sa politique, pas de sa personne, je ne le connais pas. Et je suis un homme qui pratique la séparation absolue entre les considérations de personne et les considérations politiques. Donc, d'une manière ordinaire, je me trouve à côté de cet homme, je le salue. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on en fasse ensuite... comme si c'était une collusion.
Et quand ça du tout qui a été fait dans les Inrocs. On va arrêter là.
Arrêter Thomas Legrand. Je suis allé sur Europe 1, on m'a dit « Comment va votre ami Hortefeux avec qui vous êtes bras dessus ?»
C'est une opération politique. La question, et elle revient souvent sur les réseaux sociaux, notamment de cette émission, c'est la question de votre agressivité.
Cette question. Et alors, qu'est-ce que je dois vous dire là,
les amis ? Est-ce que vous êtes agressif ?
Parfois, vous vous dites « Je suis allé un peu loin ».
Voilà.
Non, pas du tout.
Bon. Eh ben, on va aborder un autre sujet. Est-ce que vous pensez...
On ne fait pas ce que je fais sans avoir du caractère. On ne peut pas résister, comme je le fais, à toutes les pressions qui se sont exercées sur moi sans avoir du caractère. Je ressemble au syndicaliste ordinaire. Je ressemble à l'homme ou à la femme de gauche ordinaire qui n'accepte pas de baisser les yeux. Et vous devez comprendre que c'est devenu un trait de caractère pour nous tous. Le front de gauche est rempli de rebelles et de têtes dures comme moi, et je suis très fier, par mon comportement, de les représenter.
Il vous arrive de vous dire, là, j'aurais pas dû?
Mais vous, c'est quoi, un confessionnal, votre émission?
Bah, écoutez, c'est pour finir, hein, là, c'est la dernière.
Allez, allons-y, continuons.
Bon, vous avez... Comment vous voyez ce qui se passe sur le printemps, autour du printemps arabe? On a l'impression qu'il y a un risque islamiste. Est-ce que ce risque vous inquiète?
Ah ben, il est d'abord... dans une élection, il y a toujours un risque, hein, mais un risque de quoi? Ce que j'observe, c'est qu'il y a en effet un parti islamiste en Tunisie et dans d'autres pays. Bon, mais on ne peut pas avoir la démocratie que comme ça nous arrange. Donc nous organisons des élections, il y a un parti islamiste, il fait campagne, il a des résultats, à nous de faire de meilleurs résultats. Et quand même, tout de même, dans quel pays du Maghreb aurait-on pu avoir la joie d'observer 60% de gens qui ne votent pas pour des partis islamiques, et parmi lesquels un très grand nombre de partis laïcs? Et enfin, soit un peu de modestie là en France, quand même, les Tunisiens se sont massivement déplacés pour aller voter. En France, on se déplace beaucoup moins massivement. Moi, je suis donc plutôt heureux. Maintenant, évidemment, comme homme de gauche, comme protagoniste de la bataille laïque en France et dans le monde, bah, évidemment, je ne suis pas très content de voir qu'il fasse un score aussi important. Mais voilà tout, je respecte la démocratie.
Est-ce que vous avez été rassuré par la teneur des réactions assez unanimes après l'attentat contre Charlie Hebdo?
Oui, je trouve que c'est bien. Il faut que tous qu'on fasse attention à ce qui se dit. Hein. D'abord, nous devons avoir une réaction de solidarité totale. C'est-à-dire, quoi qu'on pense de Charlie Hebdo, il faut être absolument solidaire. Dans un pays démocratique, la liberté de la presse doit être totale. Voilà, totale. Et on ne règle pas les problèmes et les divergences qu'on peut avoir ni à coup de bâton, ni à coup d'incendie. Je dis bien ni à coup de bâton parce que la tentation de la violence dans nos sociétés, si tendue, est toujours présente. Deuxièmement, faisons très attention à ce que nous disons. Il se peut que ce soit, comme il a été dit, un commando islamiste. Mais ce n'est pas prouvé. Et deuxièmement, faisons très attention, surtout et continuellement, à ne pas assimiler quelques énergumènes à la masse de nos compatriotes de confession musulmane qui pratiquent à leur manière leur foi et qui sont aussi indignés que nous le sommes nous-mêmes, qui ne se reconnaissent absolument pas dans cette violence. Voilà.
Il est 18h48, encore une petite virgule, et on se retrouve avec France Bleu 107.
Radio France Politique. Le rendez-vous politique de Radio France. Thomas Legrand.
Bonsoir Noé Da Silva.
Bonsoir,
je vous
bonsoir
livre, Mélenchon. Monsieur Mélenchon, chaud comme la braise.
On a parlé beaucoup de combats, on a fait le tour du monde. Je vais vous parler d'une bataille plus proche de nous ici, en tout cas qui concerne France Bleu 107.1, c'est la bataille de Paris. À droite, elle fait rage. Il y a François Fillon qui se projette pour les législatives face à Rachida Dati, notamment. Et à gauche, depuis quelques jours, on voit des négociations entre les Verts et l'EPS, notamment autour de la patronne des Verts qui dit qu'elle pourrait arriver effectivement aux législatives dans la capitale, alors qu'elle est actuellement conseillère régionale et élue dans le Val-de-Marne. Alors écoutez, sur ces négociations entre le PS et les Verts, Pierre Cerne, il est conseiller régional Europe Écologie, Les Verts, et donc il nous parle de ces négociations sur le nom de Cécile Duflot.
Elle est secrétaire nationale d'un parti avec lequel le PS est en négociation. On sait qu'elle peut demander à peu près, enfin comment dire, n'importe quelle circonscription, beaucoup plus facile que celle de Villeneuve-Saint-Georges. C'est pas elle qui demande, c'est en général quelque chose qui est assez classique, c'est que les leaders des partis se voient proposer ou se voient faciliter tout parachutage ou tout arrivée n'importe où, et la question peut se poser.
Est-ce qu'un chef de parti peut tout demander, et notamment là, dans des négociations, est-ce que vous trouvez ça normal, ces négociations autour d'un poste, notamment à Paris?
Mais ils font bien ce qu'ils veulent, hein. Mm-hmm. On verra à la fin ce qu'il restera des idées dans tout ça. Parce que moi, j'ai trouvé quand même étrange qu'on commence par « il faut immédiatement sortir du nucléaire » et que ça finisse par « on verra bien un jour si on a les circonscriptions ». Mais c'est leur affaire. J'ai pas fait comme ça, moi.
Eux, ils négocient, vous négociez pas avec le PS?
Non. Nous sommes prêts à discuter, et je veux le dire là solennellement, et à rencontrer le Parti Socialiste pour parler d'une chose, les circonscriptions où il y a un risque Front National. Ça, oui, nous sommes d'accord. Nous sommes candidats à aller parler avec eux de ça. Là, oui. Le reste, non. C'est les électeurs qui tranchent. C'est eux qui décident. Comment j'ai fait, moi? J'étais sénateur socialiste, confortablement installé
dans
en tant que féodal socialiste de premier rang. J'ai quitté le Parti socialiste, je suis allé voir les électeurs. Où? Pas un endroit où on m'a dit « Tenez, venez, ça y est, le fauteuil est prêt, il ne vous reste qu'à vous asseoir ». Je suis allé dans la grande circonscription du Grand Sud-Ouest. 3 régions, 18 départements. Il n'y avait pas d'élus sortants communistes ou d'élus sortants Front de Gauche. Et pour cause, puisqu'il n'y avait pas de Front de Gauche. Il n'y avait pas d'élus sortants communistes. J'y suis allé avec les camarades et le siège a été gagné par la volonté du peuple. Je représente donc maintenant, comme député Front de Gauche, le point de vue des gens qui n'aiment pas l'Union européenne telle qu'elle est, au Parlement européen.
Justement, est-ce que vous avez envie de quitter le Parlement?
Je pense que tout le monde doit faire comme ça. C'est aller rencontrer les électeurs et puis
vous présenterez aux législatives.
Oui.
Est-ce que vous vous présenterez aux législatives?
On parle de vous à Paris.
Ah, mais on parle de moi partout. Donc je suis assez content.
Tant mieux.
Alors, je suis
très satisfait.
Est-ce que vous dites oui, ça vous intéresse?
Mais ça m'intéresse de quoi? Moi, ma circonscription,
d'être candidat aux législatives.
Mais vous ne parlez pas à quelqu'un comme tout le monde. Dites-vous bien.
Répondez-nous différemment.
Mais oui, j'ai déjà été 3 fois élu sénateur. Je n'ai pas fait 3 mandats puisqu'ils ont été interrompus. J'ai été ministre. Je suis député. Je ne demande rien. Je n'ai rien à prouver à mon miroir. D'accord? Donc, je ne suis candidat que quand
c'est pas
ça
pour
sert
vous.
À quelque
vous pourriez
chose.
Être utile comme député à l'Assemblée.
Oui, je pense que je serais très utile comme candidat du Front de Gauche et comme président de la République. Si vous permettez, je ne suis pas disposé
accumuler
à changer d'avis
député,
entre maintenant et le mois de mai prochain.
Donc, vous restez à Bruxelles?
Ah ben, c'est clair. À Bruxelles et à Strasbourg, et je vais y être. Et ce n'est pas facile, hein, avec l'emploi du temps que j'ai à tenir. Voilà.
Il y a une différence entre vous, entre les écologistes et le Parti socialiste, et vous et le Parti socialiste. Le Front de Gauche, vous nous l'avez dit, ne négocie pas vous, avec le Parti socialiste. Vous ne voulez pas envisager de participer à un exécutif avec les socialistes?
Alors, c'est là que la question s'embrouille dans l'esprit de beaucoup, et je le comprends. Mais voilà, nous avons une élection. Tout de même, on peut dire, elle n'a pas lieu. Hein, bon, on n'a qu'à regarder les sondages, on n'élit personne, l'affaire est réglée. Ou bien il y a une élection, mais c'est juste une espèce de formalité administrative. Non, une élection, c'est un immense exercice dans lequel les mentalités se transforment, se changent. Les gens entendent des choses, s'y intéressent pour la première fois, des fois. Ils n'ont pas réfléchi à tel ou tel problème, et puis c'est le moment de le faire. Chacun essaye de faire pour le mieux, respectons ça. Bon. Et je me bats dans l'élection pour faire avancer des idées. Que me demandez-vous? Vous me demandez de dire que j'ai déjà d'avance renoncé à ces idées, qu'on fera ce que veulent les socialistes. Alors à quoi bon?
Non, je vous parle de négociation.
Non, mais je ne dis pas vous. Oui. Mais quand on nous pose cette question. Donc négocier quoi avec les socialistes, je vous demande. J'ai fait une proposition. Je la renouvelle solennellement. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre vous ne demande à M. Hollande s'il a l'intention de me répondre un jour ou l'autre ou pas? Je fais une offre publique de débat au nom du Front de Gauche. C'est sérieux quand même. On ne peut pas gagner dans ce pays d'élection sans que le Front de Gauche soit présent dans le pays. C'est impossible.
Jean-Luc Mélenchon,
donc, il va me répondre oui ou non. Alors, je lui propose une offre publique de débat. Et pas pour le plaisir de discuter de nos thèses comparées, parce que sinon, l'affaire est vite dite. Ce que propose la social-démocratie est concentré dans la personne de M. Georges Papandréou ou de M. Zapatero, ça ne vaut pas.
On lui proposera pour une antenne de
réunion. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous avons une stratégie de sortie de crise par le haut commune possible, oui ou non? Parce que si nous en avions une possible, s'ils étaient d'accord pour taxer les revenus du capital, comme ceux du travail, pour passer à la 6e République, pour faire la planification écologique, eh bien moi, je ne retirerai pas ma main. Je ne suis pas un extrémiste. Je ne suis pas pour la terre brûlée. Chaque fois qu'on peut faire avancer les choses, on le fait. Mais il faut que ce soit sur du concret. Nous voulons nous créer un front du peuple. Pour créer un front du peuple, on n'y viendra pas avec M. Bayrou pour faire la TVA sociale.
Et ça veut dire combien de députés, ce front du peuple, ça veut dire combien de députés vous vous fixez pour les législatives?
Honnêtement, le maximum. Et si vous me demandez vraiment combien j'en voudrais, la majorité absolue, ça me faciliterait le travail comme président de la République.
Vous venez de faire deux offres à François Hollande, un débat sur la sortie de crise et un débat sur les circonscriptions pour le Front National. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a des circonscriptions qu'il faudrait se répartir où vous êtes prêt à échanger candidat PS contre candidat Front de Gauche et vous avez
ça s'est produit dans le passé, hein, déjà une fois. La tradition des communistes, avec laquelle nous nous sentons très à l'aise, hein, c'est que on va chercher son siège soi-même. Au premier, non, au premier tour, on se bat.
Et des hein.
Et après, depuis que la gauche existe, au deuxième tour, les gens de gauche votent les uns pour les autres. Le problème, c'est que maintenant, ce n'est plus vrai. Mais enfin, je le laisse de côté. Ce qui s'est déjà fait dans le passé, dérogeant à cette tradition de « au premier tour, on se compte », c'est lorsqu'il y a eu un risque que le Front National nous expulse de l'élection ou soit en situation de gagner. Ça s'est produit après le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002 où il y a eu des circonscriptions où il n'y avait qu'un seul candidat pour toute la gauche qui se présentait de manière à ce que le Front National ne puisse pas l'éjecter du deuxième tour. Donc, puisqu'on nous dit qu'il y a, tout le monde parle de ça, qu'il y a du danger Front National, etc., ben alors soyez cohérents et conséquents. Si vous pensez qu'il y a réellement un danger, c'est pas seulement pour faire peur aux gens, alors parlons-en. Où est-il? À quel endroit? Et à ce moment-là, nous sommes
en
d'accord
fait,
pour qu'il y ait des candidats uniques au premier tour. Pourquoi
de
pas
de rencontrer François Hollande, de reprendre langue avec François Hollande.
Pardon, je n'ai pas compris.
Vous avez envie de reprendre langue avec François Hollande?
J'ai envie d'avoir un débat public avec François Hollande. Mais François Hollande, j'ai vécu dans une salle comme lui au bureau national du PS pendant 15 ans. Il ne me manque pas. Je ne l'aurais pas quitté sinon. Vous savez, c'est
mais là, ça fait deux propositions. Vous avez envie de le rencontrer?
Ah, clairement. Et d'avoir. Mais je veux, moi, des rencontres publiques. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Les gens croient, parce qu'ils vous ont vu à la sortie d'un bar avec quelqu'un, que vous êtes en train de vous entendre avec. Et si jamais je ne rencontre pas François Hollande en public et dans un débat, vous allez me faire encore un grand événement.
Et on va encore
disant,
se faire engueuler.
On l'a vu, il passait dans la rue avec lui, et de loin, il se faisait des œillades. Donc
vous n'allez pas faire une négociation publique, ça n'existe pas. On se dit un certain nombre de choses, et puis on met au point son entente.
Oui. Et on va d'abord commencer par parler devant tout le monde des sujets qui intéressent tout le monde. On va parler de salaire et du SMIC. Est-ce qu'on l'augmente ou pas? On va parler de la 6e République, ou est-ce qu'ils sont devenus maintenant tellement partisans de la 5e République qu'ils ne veulent plus la quitter? Est-ce qu'ils sont d'accord pour la planification écologique? Est-ce qu'ils sont d'accord pour passer par-dessus le traité de Lisbonne? Parce que M. Thomas Legrand, je vous ferai remarquer, vous ne m'avez pas posé la question alors que vous suivez ce dossier, que M. Hollande a déjà dit qu'il l'avait cru à la formule du traité de Lisbonne, mais que maintenant il pensait que le traité était en panne et raison pour laquelle il propose je ne sais quel arrangement avec les Allemands. Donc M. François Hollande a changé d'avis sur le traité de Lisbonne. Ce sont quand même des questions majeures. Mmh. C'est de ça dont il faut parler. Mais les circonscriptions, permettez-moi de vous dire,
alors, en cas,
je suis un vieux négociateur de circonscriptions, ça se règle en 5 minutes, ce n'est pas le sujet.
Bon, alors les questions qui intéressent tout le monde, on va les voir sur Twitter. Nous avons une série de questions qui proviennent des réseaux sociaux. Et donc ça intéresse les gens, puisque c'est les gens qui les posent.
Oui.
Hubert Bastas.
Quand vous serez au second tour, pensez-vous que le PS appellera à voter pour vous ou pour l'UMP?
C'est une question Twitter, donc il faut répondre rapidement.
Eh bien, elle est magnifique. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Déjà, une fois, j'ai été sur un plateau de télé avec quelqu'un, c'était Michel Sapin, qui depuis est devenu un personnage considérable dans l'environnement de M. Hollande, donc je ne m'étais pas trompé d'interlocuteur. Je lui ai dit « Vous désisterez ?» Il a regardé le plafond, il a dit « Je ne répondrai pas, on comprend pourquoi ». Et Yves Calvi lui a dit « Non, on ne comprend pas », et l'autre est resté muré dans son silence. On a raison de me poser cette question, car je veux faire observer que dans toute l'Amérique du Sud, sans exception, chaque fois qu'il y a eu un candidat de l'autre gauche, inclus Lula, chaque fois, les socialistes ont préféré, les sociodémocrates, les membres de l'Internationale socialiste, ont préféré voter pour la droite plutôt que pour l'autre gauche.
Et vous,
par conséquent, la question doit être posée à François Hollande.
Juste une incidente, vous ferez quoi dans ce cas-là?
Dans quel cas?
Ou c'est la gauche face, ou c'est le PS face au candidat UMP, vous faites quoi?
Ah, si c'est ce cas-là. Ah, nous allons voir, c'est très simple. D'abord, le Front de gauche fédère des partis qui sont souverains. Et par conséquent, les partis se prononceront les premiers. Et moi, à la fin, je dirai ce que j'en pense.
Mais vous n'êtes pas capable de le dire aujourd'hui, comme Michel Sapin.
Bon, parce que vous savez, il y a tant d'hypothèses différentes. Mais ce que l'on voudrait obtenir de moi à cette heure, c'est qu'en quelque sorte, je banalise l'idée que, comme d'habitude, eh bien, ce seront du pareil au même, les mêmes que la dernière fois, s'arrangeant autour de la même popote, sur les mêmes petites combines. Par conséquent, je ne veux pas, et je veux que le débat ait lieu. Et donc, on verra.
Eh bien, il aura lieu et il va se poursuivre. On vous réinvitera pour ça avant, certainement, l'élection.
Merci
Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité de Radio France Politique. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-François Aquili aux manettes de cette émission. Bonsoir à tous.
Merci à vous tous.